Que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous tous. Amen. Nous glorifions le Seigneur qui nous donne encore cette grâce de pouvoir nous retrouver ce matin dans sa présence afin de pouvoir l'écouter nous parler chacun dans son cœur. Nous sommes heureux pour ce dimanche pendant lequel nous sommes en train de clôturer notre campagne d'évangélisation. Une campagne que nous avons dénommée Jean le Baptiste, avec le message de la repentance. Jean-Baptiste qui est en train d'appeler le peuple à la repentance car le royaume des cieux approche. Cette semaine a été pour nous une occasion de nous examiner chacun à ce qui les concerne, mais en même temps de parler du message et du salut à un frère ou à une sœur. Je voudrais commencer par cet exercice pour essayer de voir combien d'entre nous, pendant la semaine, vous avez pris le moment de méditer sur la repentance. Les dimanches passés, nous avons partagé des papiers de méditation à famille et vous l'avez utilisé. Ou alors, particulièrement dans votre famille, même si vous n'aviez pas ces papiers, vous avez fait la méditation sur la repentance. Est-ce que ceux qui l'ont fait peuvent manifester pour la gloire de Dieu? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ça peut être possible que pendant la semaine, vous avez compris que vous avez la responsabilité d'appeler les autres au Seigneur. Vous avez peut-être pris le temps de parler à vos enfants en famille, vous avez parlé à un frère ou à une sœur. Le Seigneur vous a donné la force d'essayer de partager le message du salut. Est-ce que nous pouvons voir ceux qui ont fait cela pour la gloire de Dieu? Gloire à notre Seigneur, gloire à notre Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Je vais dire ce matin, si tu n'as pas eu la grâce d'annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un pendant la semaine, c'est encore possible. Tu as encore cette possibilité de le faire. Parce que le Seigneur nous appelle à cela de manière quotidienne. La parole de Dieu, nous la lisons dans deux textes bibliques, à concluant le message de la semaine. Nous lisons Ésaïe chapitre 59, le premier verset et le deuxième. Bien évidemment, nous aurions lu tous les chapitres, mais nous allons lire le premier et le deuxième verset. Et après cela, nous allons lire Matthieu chapitre 3, le verset premier jusqu'au verset 10. Ésaïe 59, verset 1 à 2, et Matthieu chapitre 3, verset premier jusqu'au verset 10. Je commence par la lecture d'Ésaïe 59 et je conduis la lecture dans le nom de Jésus. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille est trop dure pour attendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et qui? Et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, parole du Seigneur. Matthieu chapitre 3, le premier verset jusqu'à 10. À ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans les déserts de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait vêtements de poils, de chameaux et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire à vous-même, nous avons pour père Abraham, Car je vous le déclare, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons plus revenir sur tout ce que nous avons dit pendant la semaine. Mais à conclusion du message que nous avons eu, ce matin, nous voulons réfléchir sur un thème intitulé « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Dans un monde plein d'antivaleurs et de criminalité, comme nous l'avons dit le dimanche passé, et comme nous y avons réfléchi pendant la semaine, Dieu nous lance un appel aujourd'hui. Il nous dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Cette phrase, bien qu'elle soit très courte, exprime une richesse très importante. Elle nous lance un sérieux défi sur le plan de la responsabilité personnelle. Dieu est en train de nous dire autrement. Observez à quoi vous avez échoué dans votre domaine de responsabilité. Revenez à la bonne voie et vous verrez le royaume des cieux s'approcher de vous. Je vais donc aborder cette réflexion à trois grandes parties. Dans la première partie, je vais d'abord montrer que le problème de ce monde, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Alléluia. Le problème dans ce monde ici, ce n'est pas Dieu, c'est nous. La deuxième chose, je vais vous amener à comprendre l'essence de la repentance. Qu'est-ce qu'est la repentance? Et à troisième lieu, je voudrais que nous puissions comprendre ensemble s'il sait que le royaume des cieux. Lorsque on dit le royaume des cieux, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Dans ces trois grandes parties, je prie que Dieu nous aide à regarder et à comprendre notre réalité autrement, car Dieu attend de nous une réelle responsabilité. Commençons donc par le premier point. Le problème de ce monde, ce n'est pas Dieu, mais c'est nous. Je voudrais bien aimer dans le Seigneur que tu fasses de ça une phrase propre à toi. Le problème de ce monde, ce n'est pas Dieu, c'est toi et moi. En fait, dans notre situation physique et spirituelle, le problème n'est pas Dieu, le problème c'est nous et c'est moi. Le problème de l'humanité, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Et je voudrais que ce matin, le regard, si ta situation change, c'est toi qui es le problème dans ta situation, ce n'est pas Dieu. Je prie que le Seigneur nous parle à travers cette expression. Vous savez, les problèmes que nous avons comme êtres humains, plusieurs fois, nous lançons nos problèmes sur Dieu. Parce que c'est de son côté que les choses marchent, ne marchent pas. Ou alors, c'est comme si c'est lui qui a décidé de ce que nous sommes en train de vivre. Mais est-ce qu'on peut encore réfléchir autrement pour dire, ce n'est pas Dieu qui est le problème, c'est nous qui sommes les problèmes. Pourquoi, en fait, c'est nous qui sommes le problème? Je pensais que je peux y aller avec des exemples très simples et je vais commencer dans les domaines physiques, dans les domaines de la vie de tous les jours. Est-ce que vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, que la souffrance et que nous endurons plusieurs fois dans nos réalités, par exemple dans notre pays, dans notre région, dans nos familles, cette souffrance-là ne vient pas forcément de Dieu, mais d'une simple corruption de la nature humaine. Quelqu'un disait même, quand les bandits arrivent chez toi la nuit pour venir te faire du mal, ce n'est pas que ces gens viennent de très loin. ou s'ils viennent de très loin, il y a quelqu'un dans ton environnement qui a essayé de leur montrer la voie. Le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est l'humanité qui est corrompue. Il est vrai que Dieu est souverain, mais quelquefois dans notre manière de faire, Dieu peut regretter de la méchanceté de l'être humain. Je crois, sans crainte de me tromper, qu'à certaines occasions, Dieu qui nous a créés peut regretter de l'avoir fait, car il voit notre façon de faire les choses. Vous savez, par exemple, quand vous lisez Genèse chapitre 6, le verset 6, Dieu a regretté d'avoir créé l'être humain parce qu'il a trouvé à l'être humain une méchanceté qu'il ne pouvait pas l'imaginer. Quand vous lisez Genèse 6, 6 dit, Dieu s'est repenti, il a dit, pourquoi j'ai créé l'être humain? Mais allons-y de manière simple dans des exemples très concrets. Comment comprendre que quelqu'un peut être à mesure de tuer son semblable par un simple plaisir? Et même les animaux ne le font pas. Les animaux tuent soit pour manger, soit pour écarter un danger sérieux. Mais la corruption de l'être humain aujourd'hui l'amène à tuer l'autre pour un simple plaisir. Il y a une histoire de quelqu'un qui disait, il a tué un grand chef. Et quand on lui a posé la question, tu l'as fait pourquoi? Il a dit, de toutes les façons, je l'ai fait pour le plaisir, mais en même temps, toutes les fois qu'on parlera de lui, on parlera de moi qui l'avais tué. Et ça, l'homme est dans sa nature, il trouve dans ça un plaisir. Vous pensez que Dieu a regardé cette nature de l'homme, il peut regretter. Quelqu'un qui est en mesure de laisser sa femme ou son mari dans sa maison et aller chercher d'autres, malgré leur impureté dans la rue. Parce que Dieu ne peut pas s'étonner. Tu laisses ta femme, tu laisses ton mari dans ta maison et tu vas chercher quelqu'une que tu ne sais pas, elle vient d'où, tu ne connais pas sa vie. Tu laisses ton conjoint et tu vas t'attacher à quelqu'un que tu ne connais pas. Est-ce que vous pensez que Dieu ne s'étonne pas? Ce sont des comportements que nous manifestons. Mais Dieu, en nous regardant, il ne nous comprendra pas. Quelqu'un est fier de l'échec ou la perte de son voisin. Et même quelqu'un peut être à mesure d'être choqué par la réussite ou l'épanouissement des autres. Un voisin à côté de toi, il réussit et tu te mets en colère. Alors que sa bénédiction peut être ta bénédiction. Quelqu'un a compris cela parce qu'il y avait un voisin qui avait acheté une voiture et après il commençait à dire, vous voyez, bon, ça va avec vos voitures là. Vous commencez même à ne plus saluer les gens le matin. Et il devient comme si la bénédiction de l'autre, c'est un fardeau pour lui. Malheureusement pour lui, une nuit, il tombe malade. Et c'est grâce à cette voiture qu'il est amené à l'hôpital. La réalité, c'est que Dieu, quand il bénit le voisin, c'est toi qui es béni. Et glorifier le Seigneur de la bénédiction de ton voisin. Parce que tu ne sais pas, peut-être que Dieu a vu que s'il mettait cette voiture dans tes mains, tu n'aurais pas de carburant. Il fallait mettre ça dans la main de quelqu'un d'autre. Et ça peut te servir d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur peut permettre qu'un jour le voisin te dise, est-ce que tu vas à l'église maintenant, on peut aller ensemble. Et tu vas dans la voiture, tu n'as pas acheté de carburant, tu glorifies le Seigneur. Mais dans l'entretien, si on te donnait cette voiture, tu prendrais où le carburant? Alors que même tes enfants peuvent être encore dans certains besoins que tu n'as pas encore réussi à résoudre. Le Seigneur a béni ça ton voisin, c'est toi qu'il est en train de bénir. Et cela doit être une source de joie pour toi. Les comportements que nous manifestons, je prie un autre exemple, quelqu'un peut passer toute la journée en train de déambuler au quartier après cours. Et quand il arrive à l'école pendant qu'il y a examen, il dérange tout le monde dans la salle parce qu'il veut avoir la réponse. Dieu s'étonne. Mais tout le temps que tu déambulais au quartier hier, est-ce que c'est vraiment l'intelligence qui te manque? Et vraiment, nous pensons que les problèmes, c'est Dieu. Les problèmes, c'est nous.
Quelqu'un qui, en même temps qu'il veut la bonne santé, il jette ses ordures n'importe où. Tu n'as pas le temps de balayer ta parcelle. Tu n'as pas le temps d'aménager les choses autour de toi. Et après, quand tu tombes malade, tu dis, vous voyez, vraiment, priez pour nous. Nous avons besoin de la protection de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Est-ce qu'il va même venir laver les assiettes à la maison?
Les problèmes, ce n'est pas Dieu. Les problèmes, c'est nous.
Vous voyez la saleté dans les caniveaux ici à la rue? Est-ce que c'est Dieu qui doit descendre au ciel pour venir laver nos caniveaux? Tu manges le biscuit, tu jettes les chassés n'importe où. Et après tu dis, bon, vraiment on a appris que dans la ville il y a maintenant beaucoup de fièvres typhoïdes. Prions que Dieu nous en protège.
Tu me dis, apparemment Dieu a regardé et dit, unapenda nini?
Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vraiment, bien-aimés dans le Seigneur, il nous faut comprendre qu'il y a une responsabilité qui incombe de notre part. Ce n'est pas à Dieu de venir. Dieu ne va pas paraître miraculeusement pour faire des choses à notre place. Il nous a mis dans ce monde et il a donné à chacun d'entre nous une responsabilité personnelle. Aussi longtemps que tu ne comprends pas que tu es responsable, tu seras en train d'attendre les choses venir de l'autre côté et en même temps le Seigneur lui sera en train de t'étonner. Comment tu ne comprends pas cela? Dans les domaines spirituels. Dans les domaines spirituels, il peut être possible que quelqu'un veut grandir spirituellement, mais il n'a aucun écart à la méditation de la parole de Dieu et à la prière. On ne grandit pas spirituellement miraculeusement. Même si on t'impose les mains, tu ne peux pas dire, « Ah, je comprends qu'après cette prière, je suis déjà à une autre dimension. » Quelle dimension? La croissance spirituelle est liée à la méditation de la parole de Dieu et à la vie de prière. Alors tu n'arrives jamais à la méditation, à la maison, tu finis à manger, tu vas dormir et tu dis, vraiment prier, nous voulons grandir spirituellement. Comment ça va se faire? Les problèmes, ce n'est pas Dieu, les problèmes, c'est nous. Quelqu'un veut que le diable fuit loin de lui, mais il ne veut pas se soumettre à Dieu et il ne veut pas résister au diable. Est-ce que le diable va fuir? La Bible dit clairement, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et la conséquence, il fuira. Tu veux que le diable te fuit et tu ne veux pas te soumettre à Dieu, il sera là. Oh Seigneur, ma chambre ici, apparemment le diable est venu habiter. Le diable est habité comment? A habité comment dans ta chambre? Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et la conséquence est là, il fuira. Quelqu'un après son pèlerinage sur la terre, il veut être reçu dans le royaume de Dieu, mais il ne veut pas accepter de s'approprier l'œuvre salvatrice de la croix. Si pendant le moment que vous êtes sur la terre, vous n'acceptez pas de vous attacher à Jésus-Christ et à le recevoir comme votre Seigneur et Sauveur, quand vous finissez votre marche, que vous le vouliez ou pas, vous allez en enfer. Alléluia. Ce matin, je suis venu de manière un peu difficile parce que j'accuse. Mais je veux que nous comprenions que la réalité, c'est que Dieu a déjà fait sa part. Il attend de nous une responsabilité personnelle. Dieu a déjà fini la mission. Le fait d'aller en affaire, le fait d'aller au ciel, ça dépend maintenant de toi. On ne va pas prier pour toi pour que tu entres au ciel. Même si on le faisait combien de fois, on ne saura pas. C'est ta responsabilité personnelle. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi. Quelqu'un veut rester fidèle à ses nouveaux engagements de piété et de fidélité à Dieu, mais il ne veut jamais abandonner ses anciennes fréquentations. Tu dis, à partir de maintenant, j'accepte de marcher de manière pieuse, de manière fidèle à Dieu. Mais en même temps, tu restes attaché à tes amis, les anciens amis qui t'ont induit en erreur. Tu reviendras dans le mal. Il y a donc une responsabilité et chacun de nous devrait comprendre cela. Je voudrais que ce matin tu sois à mesure de dire, je comprends que le problème ce n'est pas Dieu, le problème c'est moi. Le problème, c'est moi. Dieu a déjà tout accompli. Et c'est à cause de cela qu'il nous amène chacun à ce qui le concerne à comprendre sa réalité. Certaines choses ne se feront pas comme des miracles dans notre vie. Elles dépendront de notre décision. Tu ne te réveilleras pas un jour que la soif de tel péché est partie. Non, tu es appelé à décider et à prendre un nouveau départ. Oh, priez pour moi pour que la soif de l'alcool finisse. La soif ne va pas finir par la prière. Elle va finir par la décision. À partir de maintenant, je ne boirai plus d'alcool. Et ça va partir. Alléluia. Les problèmes, ce n'est pas Dieu. Les problèmes, c'est nous. Ah, priez pour moi. Je suis ce dernier tenté par des garçons. Vraiment, je ne sais pas comment se faire. Il n'y a pas question de prière. Il y a question de savoir dire non. Toutes les fois qu'ils arrivent, tu dis, j'ai une décision claire. Non. Et c'est tout. Qu'est-ce que nous attendons de Dieu? Il faut que nous soyons à mesure de dire oui à certaines choses et de dire non à d'autres choses. Et le Seigneur, pendant que nous passons que celui qui doit faire telle ou telle autre chose, lui attend que nous puissions manifester notre responsabilité. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Quelqu'un ne va pas se repentir à ta place. Si tu es parent, même si tes enfants pleurent, de quelle manière devant le Seigneur, les prières de tes enfants ne te sauveront pas. Si tu es un enfant, même si tes parents prient pour toi combien de fois, les prières de tes parents ne te sauveront pas. Les prières de tes parents peuvent seulement amener Dieu à comprendre qu'il y a urgence. Et à multiplier des occasions qui t'appellent au salut, mais aussi longtemps que tu n'as pas décidé de manière personnelle, tu resteras dans la même situation. Qu'est-ce que donc la repentance? C'est notre deuxième point. La repentance que nous lisons et sur laquelle nous méditons ce matin, c'est la réponse de l'homme à l'appel de Dieu. Quand vous lisez Matthieu chapitre 3, verset 2, la repentance, c'est la réponse de l'homme à l'appel de Dieu. Le Nouveau Testament, quand il parle de la repentance, il utilise un mot grec qui s'appelle « metanoïa ». Et le verbe « se repentir » en grec, il est dit « metanoieo ». C'est le verbe « metanoieo » en grec. Les deux mots « metanoia » et « metanoieo » s'oriente vers un changement de pensée, changement de réflexion. Vous savez en effet que tout ce que nous faisons avant de le faire en acte commence par nos pensées. Et le verbe se repentir dit change ta manière de penser. En fait, tout ce que nous faisons dans ce monde ici, ça commence par nos pensées. Avant de venir à l'église, c'est d'abord arrivé dans ta pensée qu'aujourd'hui je dois aller à l'église. Avant de préparer la nourriture, ça commence par la pensée. Avant de faire quoi que ce soit. C'est pour cela que j'ai toujours dit, quand quelqu'un fait le mal, il ne peut pas dire, ah, j'étais surpris que je l'avais déjà fait. Non, il y a eu un moment où ça a commencé dans les pensées et ça a commencé à mûrir. Et au fur et à mesure que ça mûrit, on voit l'acte quand les pensées ont commencé la chose depuis longtemps. Donc la métanoïa, la repentance, c'est d'abord le changement de pensée. Notre manière de réfléchir, notre manière de voir les choses doit changer et s'adapter à la volonté de Dieu. Toutes les fois que tu as une pensée pure, tu feras des œuvres pures. Toutes les fois que tu as des choses merveilleuses dans tes pensées, tu feras aussi des actions merveilleuses. Cette repentance, c'est donc un détournement complet et total d'une personne par rapport à telle ou telle autre situation. Il s'agit d'un appel à un changement profond, impliquant des dispositions intérieures et la manière de vivre. La repentance, elle commence dans le passé, mais elle implique aussi la manière de vivre. Il s'agit de changer absolument de direction. C'est-à-dire, marcher dans le sens opposé de celui que l'on suivait. C'est donc un changement d'esprit et un changement de détermination. La personne qui se répand, c'est la personne qui, si elle allait à l'est, elle va changer de direction et elle va aller à l'ouest. C'est donc faire un demi-tour. Le problème que nous avons, nous l'avons dit pendant la semaine, c'est que certains chrétiens, au lieu de faire un demi-tour, ils ont fait un quart de tour. Vous savez, le demi-tour, c'est que si je m'oriente dans cette direction, le demi-tour, c'est que je m'oriente dans cette autre. Et alors, les choses anciennes qui sont là-bas ne me concernent plus. Je ne suis concerné que par ce qui est devant moi, sormain. Le problème que nous avons, c'est que certains, pendant qu'ils sont en train de marcher de cette manière, au lieu de changer directement, ils s'arrêtent, ils changent comme ça. Et vous trouverez quelqu'un, il est très connecté aux choses anciennes et très connecté aux choses de l'Église. Le problème, c'est qu'il n'a pas fait des demi-tours, il a fait un quart de tour. S'il vous parle de Dieu, il vous parle de Dieu. Et quand il faut parler du diable, vous le verrez très courageux à parler du diable. Et ce sont des gens comme ça qui disent, ah, l'esprit mauvais qui est à moi là, s'il se réveille, tu vas me sentir. Donc tu sens, il est enfant de Dieu, mais dans l'entretien, il dit, l'esprit mauvais qui est à moi là, s'il se réveille ici, tu vas me sentir. Tu es enfant de Dieu et il y a encore un esprit mauvais qui habite à toi. Tu n'as pas fait de demi-tour, tu as fait un quart de tour. Ce qui fait que tu es connecté à un monde et connecté à un autre monde à la fois. Et ça, ce n'est pas la repentance. La repentance que Jean est en train d'annoncer dans les textes que nous avons lus à Matthieu ne signifie pas un changement sur un point de vue purement intellectuel. J'aime ceci, ce n'est pas un changement sur un point de vue purement intellectuel. Vous savez, les intellectuels, ils sont terribles. Un intellectuel peut écrire un livre ici. Il soutient que X plus Y égale 3. Il te donne des arguments. Tu comprends. Tu dis, ok, c'est accepté. X plus Y égale 3. Le lendemain, la même personne, il t'écrit un autre livre qui dit X plus Y égale moins 1. Et il argumente quand tu lui poses la question. Mais c'est toi qui avais dit que c'est égal 3. Il dit non, ça c'était une ancienne théorie. Maintenant, j'ai fait des recherches et j'ai découvert des choses encore importantes. Ça, ce sont les intellectuels. On peut écrire dans sa thèse, on écrit un point de vue. Et après, quand on écrit un livre, on dit non, ça j'ai dit, j'étais encore petit dans la recherche et maintenant, j'ai compris les choses. Et le lendemain, on contredit encore ce qu'on vient de dire. La repentance, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que tu changes et tu continues à faire des recherches pour dire, bon, si je trouve que ça ne marche pas, je peux encore rentrer. Non. Il ne s'agit pas de l'expression des regrets. Le problème que certains ont, c'est que tu verras quelqu'un regretter ce péché et dire, oh, vraiment, c'est mal, c'est difficile. Oh, Mungwanisame. Mais il s'arrête seulement sur le Mungwanisame. La repentance, ce n'est pas ça. Tu trouves quelqu'un qui dit, oh, vraiment. J'avais un ami, je vous en ai déjà parlé, Quand il prend de l'alcool, il dit, oh, pasteur, pasteur, je ne ferai plus. Le lendemain, quand tu le vois, il a encore pris, oh, pasteur, pardon, vraiment. Ça, ce n'est pas la repentance. La repentance, ce n'est pas non plus les remords, le fait d'avoir un remords. Vous allez voir quelqu'un, il a le remords contre quelque chose, mais s'il n'a pas décidé de changer radicalement, même si tu regrettes et tu t'arrêtes là, tu as des remords et tu t'arrêtes pas, ça ne peut pas changer ta vie. Il s'agit donc, dans la repentance, il s'agit d'abandonner la confiance à soi-même et à ses efforts pour placer son entière confiance dans l'œuvre de Dieu accomplie à Jésus-Christ sur la croix. Alléluia! La repentance, c'est le fait de dire, je comprends que de moi-même, je ne peux pas réussir. Je comprends que par ma force, ça ne peut pas marcher. Je vais maintenant m'offrir à Dieu afin qu'il accomplisse sa volonté à moi et afin qu'il agisse dans ma vie. Et par cela, vous commencez à marcher dans une nouveauté de vie. Et c'est là que vous verrez les gens en train de chanter « Ne me cherchez plus là-bas ». Vous savez, il y a des cantiques qu'il ne faut pas chanter très rapidement. Quand les choristes disent « Ne me cherchez plus là-bas », faut savoir, ils parlent de où. Quelqu'un peut chanter ça, parce ça qu'on est en train de dire « Ne me cherchez plus à Katoï, ne me cherchez plus à Mugunga ». Mais c'est dans le monde des ténèbres, quand je chante ces cantiques, « Ne me cherchez plus dans le péché ». Avant de chanter notre cantique, il faut qu'on aille auprès des choristes pour dire « Quand vous dites « Ne me cherchez plus là-bas », c'est où ?» Pour qu'on se rassure si on est aussi à mesure de vous accompagner dans ces cantiques-là. Jean-Baptiste parle de la repentance, comme dit une séparation radicale avec le péché, laquelle produit nécessairement les fruits de la justice. Vous devez vous éloigner du péché afin que votre vie produise les fruits de la justice. Et quand Jésus va venir, quand vous lisez Matthieu chapitre 4 verset 17, lorsque Jésus commence son ministère, il commence par là. Il dit « Changez de comportement car le royaume des cieux est proche. » C'est pour ça que Jésus lui-même vient dans le monde. Plusieurs personnes pensent que la repentance signifie se détourner du péché. Mais ce n'est pas la définition que donne la Bible. Dans la Bible, se repentir signifie surtout changer d'avis. La Bible nous dit aussi qu'une véritable repentance doit entraîner un changement de comportement. C'est pour cela que quelqu'un qui s'est repenti, il a un comportement qui est différent du comportement qu'il avait avant. Quand vous lisez Actes chapitre 3, le verset 19, Pierre va dire aux gens, « Repentez-vous et changez de comportement. » La définition donc biblique de la repentance, c'est de dire que c'est le changement d'avis qui entraîne à un changement de comportement. Je m'excuse, mais vous pouvez m'aider à demander à celui qui est à côté de vous. Est-ce que tu es déjà en train de vivre une réelle repentance? Est-ce que tu es en train de vivre une réelle repentance? Et si tu vis cette réelle repentance, la vie que tu mènes témoigne. Les gens qui te voient, ils témoignent. Tes enfants témoignent. Vous savez, ce sont nos enfants qui sont mieux placés pour dire, est-ce que papa peut vraiment aller au ciel? Est-ce que maman, est-ce qu'elle peut vraiment entrer au ciel? Est-ce que mon mari ici, si Dieu vient, selon le comportement qu'il affiche, est-ce qu'il peut vraiment entrer au ciel? Un changement d'avis véritable et total doit entraîner un changement de notre manière d'agir. Quelqu'un qui s'est réellement repenti et il a rejeté le péché dans sa vie, il revêt Christ, il a mis sa foi à lui, il manifestera Christ dans sa vie quotidienne. Quand vous le voyez, vous allez dire « celui-ci c'est un chrétien » parce que sa vie le témoigne. Se détourner du péché, c'est une conséquence de la repentance. Quand on s'est repenti, on se détourne du péché. Et la vraie repentance, elle se manifeste à trois étapes. La première chose, pour vous repentir, c'est qu'il faut reconnaître que vous êtes pécheur. Reconnaissez votre péché. Deuxième chose, haïr ou avoir la haine de votre péché. Haïssez le péché qui vous domine. Et la troisième chose, décidez de vous en détourner et de marcher dans une vie nouvelle, une vie conduite par le Seigneur. Les avantages de la repentance, c'est que la repentance nous évite la punition de Dieu pour le péché. La repentance nous permet d'être loin de la punition de Dieu pour le péché. En fait, quand vous lisez Psaume chapitre 7, le verset 12, la Bible dit « Si le méchant ne se convertit pas, Dieu aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. » Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive,
il bande son arc et il vise.
Ne pas se répandir, c'est tailler vous-même l'épée qui va mettre fin à votre vie. Deuxième chose, la repentance est conduit au salut. Quand vous lisez à 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 10, la Bible dit, « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne serait pas jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Le fait que tu as honte de ton péché, ça t'amène à chercher le Seigneur pour ton salut. La repentance confirme notre foi. Troisième avantage. La repentance confirme notre foi. Jean-Baptiste, quand il parle dans les textes que nous avons lus, il dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » C'est le fruit digne de la repentance qui confirme que nous sommes des enfants de Dieu. C'est le fruit digne de la repentance qui montre au monde que nous sommes réellement sauvés. Le signe de la repentance, ce qui montre que vous avez vraiment rencontré le Seigneur, c'est votre manière de vivre, ce que vous vivez après votre rencontre du Seigneur. Nous allons à notre dernier élément pour finir. Le royaume des cieux. Répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. L'expression royaume des cieux que Matthieu utilise, il l'utilise pour parler autrement du royaume des cieux. Il y a certains qui passent, certains commentateurs, parce que le livre de Matthieu s'intéresse davantage aux Juifs, et les Juifs dans leur culture, ils n'avaient pas l'habitude de prononcer le nom de Dieu, ce qui fait qu'au lieu de parler du royaume des dieux, on parle du royaume des cieux. Il parle du royaume des dieux. Cette expression renvoie à l'étendue du pouvoir de Dieu sur ce qui lui appartient. Un commentaire des pasteurs, il a dit ceci. Le royaume des cieux n'indique pas un royaume terrestre délimité dans l'espace et dans le temps. Mais le royaume des cieux annonce que c'est Dieu qui règne. Que c'est Dieu le Seigneur et son pouvoir est présent et actuel et il est en train de se réaliser. Cela implique que le royaume des cieux, c'est le fait que Dieu s'est fait proche de l'humanité. Il règne désormais parmi nous, comme cela est démontré dans le miracle de guérison. Lorsque Jésus est en train de faire la guérison des malades, il est en train d'annoncer au monde que le royaume des cieux est déjà là. Je voudrais que nous comprenions ceci. Le royaume des cieux ne signifie pas seulement le moment où nous irons vivre avec le Seigneur éternellement. Le royaume des cieux signifie aussi que Dieu est présent dans notre vie quotidienne. Afin que quand vous appartenez à Dieu, vous devenez citoyen du royaume des cieux. Même si vous êtes encore sur la terre, vous vivez déjà dans le royaume des cieux. C'est pour cela que moi je l'ai toujours dit plusieurs fois. Si tu trouves que quelqu'un est attaché à Dieu, ne lui fais pas du mal. Tu ne sais pas celui avec qui tu es en train de te battre. Parce que sa force, ce n'est pas lui. Sa force vient de la capitale de son royaume et c'est Dieu lui-même qui est le maître de sa vie. Alléluia. C'est pour cela que vous verrez que les enfants de Dieu, ils n'ont pas envie de se venger parce qu'ils savent qu'il y a celui qui les venge. Tu lui fais du mal, il reste calme. Parce que le combat, ce n'est pas lui qui le fait. Il y a le Dieu qui est juste et la justice de Dieu, il y en a. Alléluia. Lorsque Jean-Baptiste dit, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Il est en même temps en train de dire que si nous marchons de manière nécessaire avec Dieu, nous serons témoins de sa présence dans le temps présent. Si vous marchez de manière nécessaire avec Dieu dans votre famille, la présence de Dieu sera là. Vous verrez Dieu agir dans votre famille, car à Christ, nous sommes déjà dans le royaume de Dieu.
Et après la vie du royaume de Dieu sur la terre, nous allons maintenant dans le royaume éternel auprès de Dieu. Là où on n'attendra plus de guerre, on n'attendra plus tout ce qui nous dérange.
C'est donc ça que nous devons comprendre. Nous devons donc comprendre que si nous ne voyons pas la présence de Dieu dans ce monde aujourd'hui, le problème ce n'est pas Dieu, le problème c'est qui ? Le problème, c'est nous qui ne nous sommes pas attachés à Dieu. Parce que quand nous prions à Disa, « Oh Seigneur Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. »
Ça veut dire autrement, « Seigneur, nous voulons même être sur la terre, commencer à goûter le bonheur du royaume des cieux. » Et si nous ne voulons pas encore vivre ce royaume, nous devons dire « Le problème est où, clairement ?»
Si nous ne voyons pas la présence de Dieu dans nos familles, c'est nous qui avons abandonné Dieu. Il est temps de faire les diagnostics de nos familles. Diagnostique ta famille. Tu dis, le problème doit être ici, parce que Dieu est prêt à venir habiter dans ta famille.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème dans ta famille qui demande d'être résolu?
Si vous ne sentez pas la présence ou le royaume de Dieu dans votre entreprise, votre projet, il est important d'examiner si vous êtes réellement en train de marcher avec Dieu.
Parce qu'en réalité, c'est que si vous marchez avec Dieu, Jésus a dit, c'est là qu'il faut accepter de me recevoir, je vais venir, je vais faire mon royaume au milieu d'eux. Quand vous lisez l'Ancien Testament, Dieu dit à Israël, si vous acceptez de marcher avec moi, ou selon mes commandements, je viendrai au milieu de vous, je vais habiter parmi vous. Bien-aimés, si Dieu n'est pas venu habiter au milieu de nous, le problème, ce n'est pas lui qui n'est pas disponible. C'est nous qui avons encore le mal.
C'est nous qui devrions dire, Seigneur, nous venons devant toi pour que tu règnes dans nos familles, pour que tu règnes dans nos projets. Nous avons besoin de nous inscrire dans la volonté de Dieu pour vivre pleinement sa volonté et sa présence. Dieu est disposé avec nous, de marcher avec nous. C'est là que nous l'avons lu à Ésaïe chapitre 59, le verset 1er jusqu'au verset 2.
Je voudrais que tu prennes ta Bible et nous allons lire ces versets ensemble. Nous allons les lire ensemble, bien-aimés dans le Seigneur.
Dieu est disposé à marcher avec nous. Le problème, ce n'est pas lui. Ce n'est pas qu'il est indisponible. Il est prêt. Et même pendant ces temps, alors que tu es en train de planifier faire le mal, il dit, je suis là. Je suis là. Est-ce que tu peux écouter ma voix?
Ésaïe chapitre 59, le verset 1er jusqu'à 2, nous pouvons les lire ensemble.
Ensemble, non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille est trop dure pour attendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter.
Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais finir ce message en disant que ceci doit être une matière de réflexion.
Quand quelqu'un dit, bon, apparemment Dieu nous a oubliés, dis-lui clairement, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Ce sont les péchés de ce monde qui fait que sa présence ne se manifeste pas. Comme enfants de Dieu, nous devons marcher avec Dieu pour de grandes orientations. Et nous avons dit pendant la semaine ici, que nous devrions faire quoi? Nous devrions chacun se rassurer qu'il est attaché à Dieu. Et si vous n'êtes pas attaché à Dieu, le problème ce n'est pas Dieu. Il a déjà tout accompli. Le problème c'est vous. Vous êtes dominé par l'impudicité, dominé par les mauvaises fréquentations, dominé par tout ce que vous connaissez et tout ce que l'on vous dit.
Bien-aimé, tu peux décider aujourd'hui et dire, j'accepte de m'attacher à Dieu afin que désormais ma vie reflète la gloire de Dieu.
Le monde passe, le monde ici passe, le peu de temps que nous avons, C'est état que nous devons manifester, que nous devons capitaliser pour manifester la présence de Dieu dans ce monde et en même temps pour nous préparer à la rencontre de l'Éternel. Nous avons dit cette semaine, c'est aussi le temps d'aller dire à un frère, le temps d'aller dire à une sœur, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin que tu sortes de ta situation. Il a besoin d'agir dans tes projets. Il a besoin d'agir dans ton entreprise. Il a besoin d'agir dans ta famille. Il attend seulement une chose, attache-toi à lui. Attache-toi à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier le Seigneur. La mission pour laquelle le Seigneur nous appelle aujourd'hui, quand il te dit « Fais attention à ta responsabilité », il sait pourquoi il est en train de le faire. Et il sait pourquoi ce dimanche ici, il t'a donné la grâce d'être présent en ces lieux. Il sait pourquoi. La première personne avec qui nous allons prier, c'est lui de synthétiser « Aidez-moi à arrêter un peu ». La première personne avec qui nous allons prier, c'est la personne qui dit « Seigneur, j'ai besoin de m'attacher davantage à toi. Je crois que le fait de ne pas bien m'attacher à toi m'a permis ou m'a entraîné à rater ta présence dans ma vie et dans ma famille et dans mes projets. Je crois qu'il y a une certaine chose qui ne marche pas parce que déjà moi-même j'ai un problème. Je viens de comprendre que le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est moi qui n'ai pas disponible à marcher avec toi. C'est moi qui ne me suis pas attaché à toi. » Nous allons incliner nos têtes. Et s'il peut arriver que tu reconnais qu'il y a un problème, tu peux le voir comme un petit problème. Tu dis, bon, mais ça, ce n'est que petit, mais ça, c'est la source. C'est la source. C'est ce qui permet que quand tu cherches Dieu, tu ne le vois pas. Parce que c'est un petit problème. Ah, un petit conflit avec mon épouse, est-ce que c'est sérieux? C'est sérieux devant Dieu. Ah, un petit conflit avec mes enfants, est-ce que c'est un problème? C'est un problème sérieux. Ah, le fait d'avoir fait seulement ça une fois, est-ce que c'est un problème? C'est un problème sérieux. Bien-aimé, si tu es là, tu vas juste manifester la main et dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Je veux te voir. Merci beaucoup, ma sœur. Tu prends ton engagement devant Dieu. Tu prends ton engagement devant Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci, mon frère. Merci, ma mère. Merci, mon père. Merci. C'est un engagement que tu prends devant Dieu. Tu dis, Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de m'attacher à toi. Parce qu'aussi longtemps que je suis dans ce que je suis en train de faire, il semble que je n'évoluerai pas. Je ne marcherai pas. Je ne te verrai pas sur ma route. Ton engagement est nécessaire. Merci. Ton engagement est nécessaire. Je vais te demander une chose. Tu peux te mettre debout là où tu es. Tu peux te mettre debout là où tu es. C'est Dieu qui peut t'aider. Toi-même, tu ne peux pas. Il y a des gens qui disent, bon, je vais prier pour moi-même. Bien-aimé, tu ne peux pas de toi-même. Tu peux te mettre debout, nous allons prier le Seigneur avec toi. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Tu prends une décision devant Dieu. Merci beaucoup, ma sœur. Merci, merci. Tu peux te mettre debout. Tu sens dans ton cœur que tu as vraiment besoin de la grâce de Dieu. Tu peux négliger une petite chose, mais à cause de cette chose-là, quand tu seras devant le Seigneur, il te dira, je ne t'avais jamais connu. Tu as des projets, ça ne marche pas et tu sais curieusement qu'il y a un problème spirituel dans cette situation-là. Tu vas te mettre debout, tu vas te mettre debout, nous allons prier le Seigneur. Toutes les fois que tu cherches Dieu, tu ne le vois pas. Tu dis, bon, je suis en train de faire de mon mieux. Il y a un problème dans ta famille. Et tu sais qu'il y a un problème spirituel dans cette famille. Peut-être en même temps, tu pries pour ta famille et tu dis, Seigneur, je sais qu'il y a un problème dans ma famille. Je voudrais m'approcher de toi pour que ma vie devienne ce que tu veux. Tu peux te mettre debout. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes déjà debout, et ceux-là qui ne sont pas encore debout, je vais vous demander de faire un geste. C'est devant Dieu que vous le faites. Vous ne le faites pas devant quelqu'un. Vous allez juste vous avancer ici devant les serviteurs de Dieu. Ils vont vous entourer. Ils vont lever leurs mains sur vous pour que le Seigneur, qui peut changer la situation dans votre vie, il la change. Ça peut arriver que vous portez les fardeaux de votre projet, les fardeaux de votre famille. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit changer ici parce que Dieu n'est pas là. En réalité, nous ne voyons pas Dieu ici.
Bien-aimés, vous allez vous avancer parce que nous avons besoin de la grâce de Dieu.
Si Dieu a dit « Repentez-vous », bien-aimés, ça peut arriver que vous voyez la situation, mais la petite chose que vous négligez, c'est la chose qui est en train de faire du mal à votre famille. C'est la chose qui est en train de faire du mal à votre mariage. C'est la chose qui est en train de faire du mal et qui peut vous empêcher à ne pas atteindre le ciel.
Vous allez vous avancer et nous allons prier le Seigneur. Vous savez, dans la présence de Dieu, chacun récolte ce qu'il veut. Chacun prend sa part. Quelqu'un a dit dans la parole de Dieu, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont courageux. Ils arrivent et ils prennent leur part. Ils arrivent et ils prennent leur part. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous chantons ces refrains, tu seras aussi en train de voir. Si tu trouves qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, tu vas aussi t'avancer. Tu vas aussi t'avancer. Et dans l'entretemps, les serviteurs de Dieu seront en train aussi de venir pour endurer ses bien-aimés, les évangélistes qui sont présents dans la salle, les pasteurs qui sont présents dans la salle. Nous allons prier avec ses bien-aimés, afin que les choses qu'ils voient comme mal dans leur situation, dans leur famille, que le Seigneur lui-même accepte d'agir, que le Seigneur lui-même change des choses dans leur vie, afin qu'ils soient des témoins que Dieu est là. Il agit encore et il continuera à agir. Les évangélistes qui sont dans la salle, vous allez vous avancer. Mais dans l'entretemps, si vous trouvez que vous avez besoin d'être aidé, vous portez fardeau et vous sentez que j'ai besoin d'être aidé, j'ai besoin que ma famille se relève. Ça peut arriver que c'est ton père qui n'est pas venu, c'est ta mère qui n'est pas venue, c'est ton frère qui n'est pas venu, mais tu sens que le Seigneur a besoin de lui pour que votre famille décolle. Tu vas t'avancer ici devant et nous allons prier. Tu vas t'avancer ici devant et nous allons prier le Seigneur. Nous sommes en train de solliciter la grâce de Dieu. Nous sommes en train de solliciter l'intervention de Dieu. Nous allons accueillir ici devant le vice-président communautaire représentant légal suppléant de la CBK. Il va lever sa voix pour que le Seigneur qui connaît les choses et qui bouillonne sur vos cœurs, lui-même accepte d'agir dans votre vie. Lui-même accepte d'agir dans votre vie. Il ne s'agit pas de perdre le temps. Vous priez pour votre famille. Vous priez pour vous-même. Vous priez parce que vous sentez que c'est un besoin. Et nous allons tous manifester cela. La deuxième personne avec qui nous prions, c'est la personne qui dit « J'ai besoin d'être un évangéliste. J'ai besoin d'évangéliser. » Toi, tu ne viens pas ici devant. Tu vas t'élever là où tu es. Tu dis, Seigneur, utilise-moi comme un instrument d'évangélisation pour les autres. Mets-toi debout là où tu es. Nous allons prier. Et le pasteur, quand il va prier, il va aussi prier pour vous. Tu dis, Seigneur, sauve les âmes à travers ma vie. Sauve les gens à travers ma vie. Tu vas te mettre debout là où tu es. Et nous allons prier le Seigneur. Tu vas te mettre debout là où tu es. Tu dis, je comprends que je dois aller raconter aux autres la bonne nouvelle. Je comprends que ma vie doit être un témoignage pour les autres. Tu vas aussi te mettre debout et nous allons prier. Merci beaucoup. Nous entrons dans la prière.
Dieu notre Père, merci pour le message d'amour que nous venons de recevoir. Tu nous appelles de venir vers toi pour recevoir toutes les bénédictions que tu as préparées pour tes enfants. Tu es d'amour, Dieu de paix. Nous t'exprimons notre reconnaissance à ce moment précis pour nous avoir appelés au salut. Seigneur, nous n'avons rien fait pour que nous puissions t'appartenir, mais tu as tout fait pour que nous puissions devenir tes enfants. Christ est mort à la croix. Il est ressuscité pour notre salut. Lorsque nous venons à toi, Seigneur, nous recevons le pardon de nos péchés. Nous sommes appelés tes enfants, par ta grâce, nous te disons merci pour les frères et sœurs qui sont ici devant toi. Ils reconnaissent leur faiblesse, ils reconnaissent leur manquement. Ils se confient à toi, Seigneur, pour que tu puisses les toucher et les aider à marcher conformément à ta volonté. Merci Seigneur parce que tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Celui qui prend une décision de venir à toi Seigneur. Tes bras sont ouverts pour le recevoir. Nous voulons les remettre entre tes mains Seigneur. Tu connais les besoins spirituels de chacun. Nous voulons que tu sois une solution. À toi Seigneur. Nous confions cette équipe et nous voulons que tu puisses aider chacun selon ses besoins. Tu nous aimes, tu nous appelles vers toi, Seigneur, pour que nous puissions marcher à nouveauté de vie. Tu nous donnes ton Esprit Saint, celui qui nous aide, Seigneur, à marcher selon ta volonté. Nous voulons que cette grâce soit manifeste sur chacun de nos frères et sœurs ici présents. Et qu'en quittant ces lieux, ils confessent qu'il a été à ta rencontre et qu'il a été béni par toi, Seigneur, notre Dieu. Merci parce que tu as tout le pouvoir de garder nos frères et sœurs dans ta présence. Tu as tout le pouvoir de les orienter vers toi, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons le remettre entre tes mains, Seigneur, que ta main puissante puisse les guider. Que ta main puissante puisse les sauver. Merci parce que tu es ici présent. Tu as parlé à chacun. Il a reconnu ce qu'il est. Et toi, Seigneur, tu es prêt à tout effacer et que nous puissions commencer une nouvelle vie. C'est ce que nous demandons à toi, Seigneur, que tu puisses aider ce frère et ce soeur ici devant toi et aussi devant ton église. Les autres se sont levés pour manifester le besoin de proclamer l'évangile du salut. Seigneur, nous voulons les recommander entre tes mains afin qu'ils soient à tout moment prêt à ouvrir leur bouche pour dire à tout le monde que Jésus sauve. Parce que le salut est arrivé, ton royaume est parmi nous, mais nous avons besoin des hommes et des femmes prêts à proclamer cette bonne nouvelle. Nous voulons remettre ceux qui sont prêts dans leur cœur à communiquer ce message. Nous voulons, Seigneur, qu'ils puissent être remplis de ton Esprit Saint afin que partout où ils passent, que les gens voient, que les gens entendent que, Seigneur, tu es là pour le salut de toute l'humanité. Nous voulons prier pour toute l'Église. Seigneur, nous voulons que chacun puisse témoigner par sa vie, par son comportement, que tu travailles à travers lui et que le message que nous avons, le salut que nous avons reçu, se manifeste partout où nous passons, au niveau de nos maisons, partout où nous travaillons, que les gens voient que nous t'appartenons, Seigneur, notre Dieu. Merci, parce que c'est le moment de sauver. Merci, Seigneur, c'est le moment d'aider les gens à venir à toi. Permets que ta main puissante puisse nous accompagner tous partout où nous sommes et que l'Évangile puisse se répandre dans nos milieux respectifs. Gloire à toi, parce que tu es au milieu de nous, Seigneur, et que ton esprit a parlé, et que ta parole aura deux effets sur ceux qui l'ont reçu, sur les frères et sœurs, et nous voulons que ta main puissante puisse nous aider à aller de l'avant dans notre vie spirituelle. Gloire à toi, parce que tu es au milieu de nous. Gloire à toi parce que tu agis. Gloire à toi parce que tu sauves. Gloire à toi parce que tu appelles au salut. Merci Seigneur parce que tu es là pour nous aider. Nous te rendons grâce et nous te louons. Nous voulons que ta main puissante se manifeste sur chacun de nous ici présents. Nous prions dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.